Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
Bienvenue tout le monde à l'écoute de Nutri Radio. J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode avec Patrick Martini. Bonjour Patrick.
Bonjour à tous.
Alors,
sur Nutri Radio.
Avant de démarrer, un mot pour remercier notre partenaire, le laboratoire Minty, qui depuis 2003, en plein cœur de la Provence, allie nature, science, pour concevoir des cosmétiques et des compléments bio rigoureusement testés, grâce à une production locale, des plantes issues d'agriculture aussi, biodynamiques, et des formulations sans diluants ni agents de charge. Minty s'engage vers une efficacité haut de gamme et un impact environnemental maîtrisé. On va parler aujourd'hui avec Patrick de si nous pouvions changer New York. Alors je suis très heureuse déjà de faire cette émission avec vous Patrick. C'est ma première dans Super Pouvoir. Depuis le début de l'année, vous faites vos émissions sur ce qui peut évoluer, faire évoluer surtout l'humanité. Et aujourd'hui, vous proposez un sujet singulier. Mais avant d'aller plus loin, vous êtes à New York en ce moment. C'est bien ça, je ne me trompe pas, hein?
Oui, c'est ça, Ambeline. Oui, je suis en plein cœur de Manhattan, dans New York. Je suis venu visiter mon fils qui travaille ici. Et je suis sur mon voyage retour du Canada.
Oui, vous avez donné un stage atelier qui a duré 2 jours, en route vers le mois optimum, à Québec, au Canada. Comment ça s'est passé d'ailleurs?
Ah ouais, super bien. Super bien. J'adore le Canada et puis nos amis québécois. Et puis, quel plaisir de partager ma passion avec eux. Il y avait 80 personnes sur ce stage et ça a été vraiment un vecteur de transformation chez les participants. Ouais, j'ai passé un super bon moment et j'espère que mes stagiaires aussi.
Donc, vous êtes sur New York et vous vous êtes dit, et si nous, on appliquait sur l'une des villes les plus effervescentes du monde, les concepts développés dans Super Pouvoir. Voilà.
Ouais, rien que ça. Rien que ça. C'est vrai que on a parlé de d'économie symbiotique, on a parlé de réinventer la beauté, on a parlé de retrouver en fait ses besoins de se relier à la nature. Donc il est vrai qu'on pourrait penser que la tâche paraît gigantesque, voire utopique. Sur une ville effervescente et complètement dingue comme New York, et pourtant cette utopie est en réalité une nécessité économique et sociale qui est hyper importante. Donc face à la pollution, à la crise des ressources, à la précarité, aux embouteillages incessants, et j'ai retrouvé tous les coups de klaxon incessants à toute heure du jour et de la journée dans New York. En fait, on voit très bien que les modèles urbains actuels montrent leurs limites. Donc il y a déjà des solutions qui existent, des toits productifs, des énergies décentralisées, la symbiose industrielle, des circuits courts, et ça gagne de plus en plus, non seulement en intérêt, mais en rentabilité. Donc moi, ce que je dirais, c'est que New York a vraiment en fait tous les atouts pour mener cette transition. Il y a un gros capital intellectuel, il y a une densité énorme et une variété de population qui est vraiment favorable aux innovations circulaires. Et puis, il y a une tradition d'audace ici. Il y a aussi des centaines d'initiatives concrètes. On l'a vu avec la High Line, aux fermes verticales à Brooklyn. Donc, tout cela démontre la viabilité de ce modèle. Alors, il ne s'agit pas de revenir à un passé idéalisé, mais vraiment d'inventer une métropole résiliente où le bien-être humain, la santé des écosystèmes et la beauté réinventée deviennent la nouvelle mesure du progrès. En fait, la véritable utopie serait de croire que nous pouvons perpétrer le système actuel, vous voyez.
Et alors, d'après vous, comment on pourrait passer de l'asphalte à un écosystème sain? Quels sont les exemples concrets de cette volonté politique?
Alors, je vais parler des 4 projets les plus emblématiques qui ont été réalisés et qui montrent vraiment ce que j'appelle le réensauvagement de New York. Alors, le premier, c'est la High Line. C'est une ancienne ligne de chemin de fer aérienne et industrielle dans Manhattan. Et elle était complètement abandonnée pendant des décennies. Et en fait, elle a été transformée en un parc de 2,3 km de long où la nature a été laissée en libre évolution. C'est hyper agréable de s'y promener, de courir le matin tôt. Et c'est vraiment un exemple concret d'une régénération écologique passive. Ce qui est incroyable, c'est que les architectes paysagistes de la High Line se sont inspirés de la friche sauvage qui avaient spontanément recolonisé la voie ferrée. Donc, ils ont conçu un paysage qui allie en fait l'esthétique avec des plantes vivaces, des graminées, des arbustes indigènes qui changent avec les saisons. Et là, c'est vraiment la preuve d'un symbole de l'industrie, hein, ce chemin de ferré en plein milieu de la ville, ben, ça peut devenir un corridor pour la biodiversité.
Et bien, c'est vrai que ça a inspiré aussi plusieurs villes en France à utiliser une voie ferrée désaffectée et la changer en promenade.
Oui, on l'a vu, par exemple, sur la ville de La Ciotat, mais dans plein d'autres villes, comme Dallas aussi, il y a énormément de villes qui, dès qu'il y a quelque chose désaffecté, alors ils le changent en promenade et c'est vraiment quelque chose de bénéfique. Il y a un autre programme qui est incroyable, hein, qui a été réalisé, qui est la création de Fresh Kills Park sur Staten Island. Alors, Staten Island, c'était anciennement la plus grande décharge à ciel ouvert du monde. Et c'est trois fois la taille de Central Park. Hein.
Ah oui, quand même.
Donc, c'est énorme. Et c'était un site, ce site hyper pollué se transforme petit à petit en un parc public de 890 hectares. Ah oui. C'est l'un des plus grands des États-Unis. Mm-hmm. Donc, c'est hyper ambitieux. Hein. C'est un projet de guérison d'un écosystème qui a été, évidemment, gravement endommagé. Donc, la réhabilitation de cet espace inclut le captage du biogaz, la création de collines et de vallées, la réintroduction d'habitats pour la faune. Donc, on voit réapparaître des renards, des faucons, des oiseaux aquatiques. Donc, Fresh Kills nous montre qu'aucun espace n'est irrécupérable. On peut toujours faire quelque chose et que la nature peut reprendre ses droits sur les paysages les plus dégradés tout en créant de nouveaux écosystèmes résilients.
Mais c'est un peu à l'opposé de l'image de la société de consommation pour laquelle les décharges sont très importantes pour acheter, jeter, acheter même de nouveau. On voit qu'il y a quand même une évolution dans ce domaine.
Oui, c'est ça bouge. On en a beaucoup parlé du recyclage et de la beauté réinventée. D'ailleurs, je vous invite à réécouter nos dernières émissions. Et puis à New York, il y a ce projet que je trouve incroyable, qui est celui du Oyster Restoration. Alors là, on va dire, mais qu'est-ce que c'est les huîtres? Donc, en fait, ils sont en train de réintroduire 1 milliard d'huîtres dans le port de New York. C'est un truc de fou, quoi. Donc, ce projet vise à réintégrer ces huîtres vivantes parce que les récifs d'huîtres qui ont aujourd'hui disparu, en fait, c'était vraiment l'écosystème fondateur du port. Et les huîtres, en fait, sont pas que un aliment, elles sont aussi des ingénieurs d'un écosystème. En fait, un seul récif filtre naturellement l'eau. Ça atténue l'énergie des vagues et ça va donc protéger les côtes de l'érosion. Et puis, ça fournit un habitat pour d'autres espèces marines. Et ce projet prouve que la restauration écologique peut s'étendre au-delà de la terre ferme et reconnecter la ville à son milieu marin historique.
C'est assez fou quand même. J'ai hâte d'en savoir plus. Ne bougez pas, on fait une courte pause sur Nutri Radio.
Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
Merci à tous de nous écouter. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr. Vous y trouverez des masterclass santé de référence conçues, animées par des experts, ainsi que des émissions et documentaires exclusifs. Une nouvelle masterclass d'ailleurs est mise en jour en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et rester à la pointe de la santé intégrative. Donc toujours avec Patrick Martini en direct depuis New York, vous nous montrez qu'une ville gigantesque comme Big Apple a des projets ambitieux de symbiose avec la nature. Qu'y a-t-il d'autres comme projets en rapport avec la santé?
Il y a énormément de projets qui sont tous hyper variés et qui sont vraiment à la base des politiques municipales très ambitieuses. Hein. Mais il y a aussi beaucoup d'initiatives citoyennes. En fait, New York n'aborde plus ces défis, enfin l'eau, l'air, le stress, l'alimentation, de manière isolée. Hein. Tout est vraiment intriqué. Donc la ville les traite de façon systémique en comprenant que, par exemple, un parc qui réduit le stress, et aussi un outil de gestion des eaux de pluie. Ou alors qu'une ferme sur un toit, non seulement améliore la sécurité alimentaire du quartier, mais aussi la qualité de l'air et permet en fait une meilleure isolation de la maison. Mmh. Donc voilà. Alors le projet qui m'a impacté le plus est que en fait mon ex-belle-famille qui habite Brooklyn, en fait dans Brooklyn c'était il y a quelques années très très compliqué d'avoir accès à de la nourriture bio. Il y avait essentiellement que des supermarchés avec des légumes OGM sans saveur, des chips et du Coca-Cola. Et le Coca-Cola était bien moins cher qu'une simple bouteille d'eau.
Oh, wow.
Oui, non, c'était terrible, terrible. Ouais, il ne faut pas s'étonner s'il y a une majorité d'obèses, quoi.
Eh oui.
Mais en fait, il y a maintenant sur Brooklyn des fermes urbaines sur les toits. Et il y a un projet que j'adore qui s'appelle Brooklyn Grange. C'est qui est la plus grande ferme sur toit du monde et qui produit des tonnes de légumes bio qui sont hyper locaux, mais aussi qui créent des emplois, qui offrent des paysages qui sont apaisants et qui contribuent aussi, là aussi, à l'isolation thermique des bâtiments. En fait, c'est assez similaire à la ferme du Talus à Marseille, où il y a 2 hectares de terrain vague en plein Marseille qui ont été changés en une ferme urbaine incroyable. Et en fait, c'est des choses c'est du copier-coller qu'on peut faire un petit peu partout. Donc, d'une manière générale, l'accès à une alimentation saine et biologique est vraiment devenue une priorité sur New York. Donc, la ville promeut activement les repas à base de plantes dans les cantines scolaires. Il y a quand même plus 1 million de repas par jour qui sont donnés et va encourager les New-Yorkais à réduire leur consommation de viande pour leur santé. Et puis, il y a une croissance énorme et un agrandissement des farmers markets, des green markets et du SNAP, c'est-à-dire les aides alimentaires. Donc, le réseau de marchés de producteurs locaux, les green markets, s'étend sans arrêt avec un accent important sur l'accessibilité financière. Donc, il y a un nouveau programme sur New York qui s'appelle Health Bucks, qui double en fait la valeur des aides alimentaires, des food stamps, lorsqu'elles sont utilisées sur les marchés locaux. Et ça rend les fruits et les légumes bio et locaux plus abordables pour les foyers à faible revenu.
Vous parliez des aides alimentaires. Quelles sont ces aides alimentaires et surtout qu'est-ce que fait New York?
Il y a vraiment des millions d'Américains qui reçoivent des bons d'achat alimentaires. On appelle ça des food stamps. Et ça représente à peu près $250 par personne pour les familles qui n'ont pas le revenu minimum. Mais ce qui se passe, c'est qu'à New York, lorsque quelqu'un qui a des food stamps utilise ses aides dans un marché de producteurs de la ville, le Green Market, en fait, il peut utiliser le programme Health Buck qui donne pour chaque 2 $ dépensés, la ville offre 2 $ supplémentaires.
Mais c'est génial.
Oui, c'est génial. Ça incite financièrement à acheter des fruits et des légumes frais, bio et locaux, et directement auprès des agriculteurs locaux de Brooklyn, par exemple.
Mais vu de la France, nous, ça nous paraît quand même assez fou. C'est incroyable, tellement on est habitué à penser que aux États-Unis, c'est chacun pour soi. Ça paraît lunaire.
Oui, ça paraît dingue. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a une forte mobilisation citoyenne pour aider les plus dépourvus. Ça, je l'ai vu, j'ai habité longtemps ici. Il y a beaucoup de programmes très suivis pour la diminution du stress, la santé mentale. Il y a des projets qui s'appellent la Social Connection ou Dementia Friendly à New York City. Donc, la ville a lancé des initiatives officielles pour lutter contre l'épidémie de solitude, qui est vraiment un facteur majeur de stress et de problèmes de santé. Alors, il y a plein de programmes intergénérationnels, il y a des événements communautaires qui vont faciliter le lien social qui avait disparu quand même. Et puis, il y a un projet incroyable de sylvothérapie. Alors, on a fait une émission il y a 2 ans dans Super Pouvoir sur la thérapie par la forêt. Et donc, il y a les Forest Therapy Guides qui proposent des bains de forêt. Alors, en japonais, la technique est connue sous le nom de Shirin Yuku, Hein, et c'est, y a des gens qui se rassemblent pour faire des câlins aux arbres dans tous les parcs de New York. Et ce qui est incroyable, c'est que la ville fait de plus en plus attention à ces espaces verts parce qu'elle le reconnaît comme une infrastructure importante pour la santé publique et pour réduire le stress et l'anxiété.
En résumé, au vu de tout ce que vous voyez là en ce moment à New York, qu'est-ce que vous proposeriez pour changer les villes en villes symbiotiques ?
Ah ben, il faut réensauvager, hein. Il faut un réensauvagement urbain. Hein. Donc, les toits végétalisés, en potager ou en écosystème, les murs couverts par des plantes indigènes pour isoler le bâtiment. Il faut faire attention à l'eau, absorber les eaux pluviales, créer des habitats pour les pollinisateurs, les abeilles, les guêpes, tous les insectes. Il faut relier les parcs qui sont déjà existants dans les villes par des corridors, hein. Sur les berges, les avenues, les voies ferrées. Il faut désimperméabiliser les sols. Il faut remplacer en fait l'asphalte par des sols perméables et créer ce qu'on appelle des jardins de pluie pour gérer des eaux de ruissellement et planter massivement des arbres. Et puis surtout, il faut développer l'agriculture urbaine intensive, hein, transformer les friches, les toits, les parkings en fermes verticales. Et ça rapprocherait la production alimentaire des consommateurs. Et ça va réduire aussi les émissions du transport nécessaire, quoi. C'est vraiment à l'opposé de la mondialisation aujourd'hui. Donc, il faut aussi réintroduire des processus naturels pour gérer la ville. Par exemple, utiliser les huîtres, comme le fait New York, pour filtrer naturellement l'eau du port, ou des bactéries pour traiter des déchets organiques. Donc, mais bon, en fait, l'écologie, tout ça, on connaît bien, c'est bien beau, mais en fait, sur New York, quand même, il manque quelque chose.
Alors, c'est vrai que ça a l'air fantastique. Qu'est-ce qui manque, justement ?
Eh bien, ce qui manque, c'est... les projets écologiques, c'est super, hein, c'est une avancée réelle. Mais en fait, ça déplace l'attention des problèmes structurels avec... comme des problèmes structurels comme les sans-abri. Hein, quand on se balade en New York, c'est toujours aussi sale, les poubelles débordent, il y a des tonnes de gens qui dorment dehors. Donc il y a vraiment. Alors on est là, on est tout content que les huîtres reviennent dans le port de New York, mais quelque part, on oublie certains problèmes structurels majeurs. Donc et qu'est-ce que ça nous montre ? En fait, ça nous montre que une ville véritablement symbiotique ne peut pas être saine si elle n'est pas juste. Donc les sacs poubelles, la crise du logement, tout ça, ça révèle des fractures profondes, la pauvreté, le désinvestissement, le manque de services sociaux, que les projets verts, hein, les projets écologiques, seuls ne règlent rien. Enfin, donc l'enjeu, quelque part, c'est de lier les deux. Hein. Un toit potager doit aussi être un logement abordable. Un parc dépolluant doit être aussi conçu avec et pour les sans-abri. Donc la véritable symbiose est celle qui soigne à la fois l'écosystème et le tissu social, sans en sacrifier un pour l'autre. Le focus sur la nature ne doit pas détourner le regard, mais offrir un nouveau cadre de vie pour résoudre les crises humaines, car ça, mes amis, c'est un véritable super pouvoir.
Merci beaucoup Patrick pour toutes ces informations. On va se retrouver bien sûr la semaine prochaine. Pour l'instant, profitez encore de New York, hein.
Ah ben oui, là, c'est sûr qu'on a l'après-midi dans Central Park et on espère ne pas se faire attaquer par les tribus d'écureuils.
Eh oui.
Et ça devrait aller.
Profitez bien, merci beaucoup Patrick, à bientôt.
À bientôt, au revoir à tous.
Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.